Bonjour à toutes et tous, bienvenue au Champ Libre, donc pour ce dernier rendez-vous au Jardin d'hiver. On va être ensemble pendant 45 minutes pendant lesquelles Claire Berest va nous parler un petit peu des œuvres ou des auteurs qui l'ont marqué, de ses plaisirs de lecture. Voilà, et n'hésitez pas après à rejoindre la librairie Le Forum qui est présente si vous voulez en trouver un ou deux pour vous. Je vous souhaite un très bon moment.
Bonjour à tous. J'essaie de me... pour vous voir un peu plus. C'est très intimidant parce que d'habitude, on a l'habitude que quelqu'un soit là pour nous poser des questions, etc. Et donc, c'est un format particulier, mais qui, du coup, je trouvais assez... c'est un petit défi. Merci de cette proposition-là. Par ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on m'a demandé de donner 5 livres pour ce moment, c'était il y a maintenant quelques temps, et quand ce rendez-vous s'est rapproché, je me suis rendu compte que j'avais un peu oublié quel livre j'avais donné. Et en fait, j'ai fait exprès de ne pas aller regarder dans mes mails pour savoir quels 5 livres j'avais donné, parce que je me suis dit, en fait, c'était la carte postale d'un moment. À ce moment-là, quand j'ai dû répondre à ce mail, j'étais évidemment à la bourre pour y répondre, je dis, ah mince, j'ai oublié de donner 5 livres. Et en fait, ça dit quelque chose, je pense, de notre rapport à la lecture, et je pense pour un certain nombre d'entre nous, c'est qu'il est quasiment impossible d'avoir 1, 2, 3 ou 5 livres d'une bibliothèque idéale, parce que c'est extrêmement mouvant, que ça bouge tout le temps et que selon quand on vous le demande, vous allez peut-être sortir un livre que vous venez de lire et qui vient de vous bouleverser, mais si on vous le demande 5 ans plus tard, ça peut être un livre très ancien, etc. Donc j'avais fait exprès de ne pas re-regarder, donc je viens de les redécouvrir. Voilà pourquoi c'était cela. Et donc je vais essayer d'en dire quelques mots pour chacun, pour peut-être vous donner envie de les découvrir si l'invitation vous sied. Je me rends compte que que c'est des livres de genres très différents et qu'il n'y a pas beaucoup de romans. Il y en a 2 et j'ai un recueil de poésie, on va dire 2 essais et 2 romans. Alors, je vais essayer de ne pas m'éparpiller et j'ai qu'une femme. Je viens de m'en rendre compte sur les 5. Bon. Les Bienveillantes de Jonathan Little, je ne me souvenais pas du tout que je l'avais inscrit, mais je ne suis pas étonnée parce que je pense que quand on vous prend au déboté comme cela, vous pouvez avoir oublié en partie les livres ou vous pouvez être dans la difficulté d'ailleurs de résumer exactement l'histoire, mais vous allez essayer de donner le nom d'un livre qui a changé quelque chose de votre vie. Voilà. Et donc, je pense que c'est ce qui a présidé au choix de ces 5 livres. Certains, je les ai lus il y a très longtemps. Donc, je ne serais pas aussi bonne qu'une libraire ou qu'une bibliothécaire pour vous les résumer. Mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ils ont changé votre vie? Alors, pour le coup, Jonathan Little, Les Bienveillantes, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu. Il parle de la Deuxième Guerre mondiale. Dans la tête... d'un soldat allemand, en tout cas de quelqu'un qui va se retrouver, je ne sais plus quel est son statut exact, mais qui va se retrouver tout à fait au cœur de la machine extermination nazie et qui, par ailleurs, dans mon souvenir, et même dans cette première vague particulièrement stupéfiante des Einsatzgruppen, c'est-à-dire cette première vague avant la sophistication industrielle de la Shoah avec les camps de concentration et d'extermination, mais cette vague vraiment de ce qu'on a appelé la Shoah par balle, avec cette sorte de tentative de tuer le plus de monde possible de manière efficace. Et effectivement, et alors c'est marrant, je viens de faire un parallèle parce que Jonathan Little nous plonge dans la tête de cet homme-là, au plus profond, sans jugement. Et c'est marrant parce que mon dernier livre, et j'en parlais juste avant, je me plonge dans la tête d'un homme qui va tuer sa femme, et une des choses qui me guidait était sans aucun jugement moral. Et c'est marrant parce que donc, je viens de faire le lien, ce livre qui m'a tellement marqué, alors loin de moi évidemment de me comparer à Jonathan Little, mais je me rends compte que finalement peut-être qu'il y a ça qui m'est resté aussi en lisant ce livre, à quel point la littérature se situe à l'endroit de l'absence de jugement moral. Et donc on va suivre, alors j'ai oublié le nom du personnage, je ne sais plus exactement, on va suivre cette personne dans sa dégradation intérieure aussi, petit à petit, dans sa confrontation à ce qu'il y a de plus inimaginable, à une tuerie de masse frénétique, un homme qui est par ailleurs quelqu'un de sophistiqué, de brillant, de mélomane, quelqu'un de, voilà, de distingué. Et cette ambiguïté impossible pour nous à saisir de la très très grande barbarie avec la très grande sophistication. Et Jonathan Little, romancier impeccable qui résout tant de questionnements, nous fait face à cela sans apporter de réponse, évidemment, puisque le roman n'est pas là pour apporter des réponses, mais pour nous permettre, nous, de cheminer avec nos lectures pour tenter, voilà, de faire du sens à notre échelle. Et donc, effectivement, ce livre m'a profondément marqué. C'est un peu un Everest, hein, puisque c'est plus de 1000 pages dans mon souvenir. Et ce qui est amusant, c'est que j'en parlais à quelqu'un il y a quelques jours, c'est que on parlait de la construction du roman, et comme l'ouverture d'un roman doit inviter le lecteur à ouvrir la porte, et je parlais de ça avec quelqu'un qui est en train de finir son livre, de l'importance de ces premières pages, les 20 premières ou les 100 premières d'ailleurs, pour essayer d'accompagner le désir de quelqu'un de pas abandonner le livre. Et c'est intéressant parce que je lui citais l'exemple de Little en disant, dans mon souvenir, Little, c'est 1000 pages, les 300 premières sont d'une limpidité, d'une force, on ne peut rien lâcher. Les 300 dernières aussi, qui descendent vraiment totalement vers la folie. Et les 300 du milieu sont arides, difficiles. C'est comme une montagne à escalader. Et donc, je fais cette réflexion de, bon, bah, même Little a tenté les premières pages, en tout cas, de retenir le lecteur, qu'il ne s'enfuit pas. Le sujet, c'était si difficile. Et il a gardé peut-être l'aridité la plus grande pour le milieu où il s'est permis cela. Donc voilà quelques mots sur Little. Je ne me rends pas trop compte du temps, donc je vais essayer de dire un peu sur chacun. Un roman qui, pour moi... alors, c'est deux tomes. Là, j'en ai un seul. C'est Le Tour du Malheur de Joseph Kessel. Et donc, il y en a deux. Donc, c'est aussi un livre... Voilà, il y a le deuxième ici. C'est aussi un livre assez dense. Et pour le coup, autant Little, il peut y avoir un peu cette forme d'alpinisme intellectuel du deuxième tiers du texte, autant Le Tour du Malheur, j'ai l'impression qu'on l'ouvre, la nuit est passée, on a terminé les deux tomes tellement qu'on n'a pas pu en sortir. Ce qui est intéressant aussi, c'est que en commençant ce livre, je l'avais commencé parce qu'un ami me l'avait offert, et donc je m'étais pas posé la question du titre. Parfois, je commence à lire un livre, je sais pas vous, moi ça m'arrive souvent, et en fait je fais pas vraiment attention au titre. Je le lis parce qu'on me l'a prêté, parce qu'on me l'a conseillé, etc. Et c'est vrai que je commence ce livre parce que cet ami me dit « Ce livre est très, très important. Il a été très important pour moi. » Et c'est qu'à la toute fin, où le titre m'a percuté. Parce qu'en gros, dans mon souvenir, parce que pareil, je l'ai lu il y a longtemps, on suit 10 ans de la vie d'un jeune homme au début du texte, puisqu'il doit avoir une vingtaine d'années, et qui 10 ans, et on le suit jusqu'à ses 30 ans, donc un peu à ce moment où le jeune homme devient homme, on va dire. Et c'est, dans mon souvenir, entre les deux guerres. Donc on est plutôt dans la première partie du XXe siècle. Et on va voir comment ce jeune homme va devenir avocat, comment il va commencer sa vie professionnelle, comment il va peut-être renoncer à certains de ses idéaux. En tout cas, comme nous tous, une expérience universelle. Qu'est-ce que c'est, d'une certaine manière, de laisser une forme de jeunesse derrière soi et d'entamer une autre partie de sa vie? Simplement, dans ces 10 ans, il va se passer énormément de choses pour ce jeune homme qui s'appelle Richard, dans mon souvenir, mais je n'ai plus son nom de famille. Alors, je ne sais pas si ça va vous donner vraiment envie ce que je vais dire, mais en ayant fini le deuxième tome, pourquoi le titre m'a percuté? Parce que tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'effectivement, en 10 ans, Richard, il avait fait le tour du malheur. Il en avait fait le tour. Il avait tout expérimenté, il avait tout ressenti, il avait tout trahi aussi, et que, alors que ça reste encore un jeune homme de 30 ans, c'est comme si tout d'un coup, voilà, il y avait le pire, et parfois le meilleur, mais le pire qu'il avait aussi provoqué. Il y a aussi cette chose-là, c'est que le personnage, tour à tour on l'aime, tour à tour on ne le comprend pas, tour à tour on le déteste. Et c'est vrai que Joseph Kessel tente cette expérience de mettre ce jeune homme en prise à tous les excès. Donc c'est quelqu'un qui va devenir avocat, très bon dans son métier, mais il va le mettre en prise à la problématique de la drogue, à la problématique des jeux d'argent, du casino, des femmes, de la trahison dans le couple. C'est comme si Kessel avait fait cette sorte de laboratoire sur 10 ans, de plonger Richard dans tous les excès de la vie, mais qui nous guette à chaque coin de rue. Et c'est vrai qu'on en ressort, mais essoré. Et notamment, il y a un personnage qui est très, très beau, qui est resté dans mon cœur beaucoup plus, je crois, que le personnage principal de Richard. C'est son jeune frère, qui, dans mon souvenir, s'appelle Daniel. Et on va suivre en parallèle le parcours aussi du jeune frère, très différent, moins solide que Richard, moins flamboyant peut-être, moins charismatique, beaucoup plus sensible, beaucoup plus fragile, et qui dans ses 10 ans de malheur va passer par va aussi se faire broyer. Alors c'est que ça donne pas très envie parce que je vous présente un livre sur la Shoah et un livre sur le tour du malheur. Je me dis mince, j'aurais pu prendre des choses plus gaies, mais dans les deux cas vraiment ça transforme. Et c'est aussi en explorant le malheur qu'on respire de bonheur et de joie de la vie. Hein. Donc voilà, je veux pas que tout le monde se pende à la fin du truc. Donc ça, ce sont les deux romans que j'avais proposés. Alors après, les deux autres des textes, c'est des choix peut-être plus de traverse. Il y a la préparation du roman de Roland Barthes et la vie matérielle de Marguerite Duras. Pourquoi un peu plus de traverse ? Alors, comme vous savez, Barthes n'est pas un romancier. Il n'a pas écrit de roman. Il a écrit des essais, il a écrit des fragments. Et donc, ici, c'est encore un genre un peu différent. C'est que c'est une réunion assez récente. Je dirais que ça a quelques années, peut-être 5 ou 6 ans. Il faudrait vérifier le copyright. C'est une réunion de ses cours, d'une partie de ses cours au Collège de France. Et dans mon souvenir, parce que pareil, ça fait un petit moment que je l'ai lu, ce sont ses derniers cours, en fait. Parce que, comme vous savez, ou peut-être que vous ne savez pas, et ça n'a aucune importance, Roland Barthes est mort un peu brutalement des suites d'un accident où il s'est fait renverser. Alors, je ne sais plus, par une voiture, une petite camionnette, un bus, je ne sais plus. Mais il a eu un accident comme ça de la route piéton. Il n'est pas mort tout de suite, il a mis quelques semaines malheureusement, mais il n'en a pas réchappé. Il n'était pas si âgé que cela. Et donc, il y a quelque chose d'assez beau et d'assez troublant et émouvant dans ces cours qui n'auront jamais de fin, puisque Barthes ne pourra pas aller jusqu'au bout de ce cycle de cours. Et l'autre chose aussi qui me bouleversait, c'est que Barthes est quelqu'un d'assez particulier, mais... Il passe son temps dans ses cours à expliquer comment se préparer à rentrer dans l'exercice, la pratique, la discipline du roman, en expliquant lui-même à quel point toute sa vie, il aurait voulu, il a voulu, il voudrait peut-être plus tard écrire enfin le roman qu'il doit écrire. Et c'est comme si on tournait toujours avec lui de cette impossibilité pour lui de passer à l'acte et de rentrer effectivement dans l'écriture d'un roman. Et donc c'est extrêmement troublant de cet homme qui fait, c'est assez épais, hein, et le cours n'était pas fini. Et à la fin de ça, on sait toujours pas comment on se prépare au roman. Hein. Je vous divulgage la fin là. C'est qu'en fait avant, on dit, ah bon, et donc et comment on fait alors ? C'est-à-dire que vraiment, ça parle de beaucoup de choses autour, mais on n'arrive presque jamais au cœur du sujet. Mais c'est cette impossibilité là que je trouve très parlante. Cet homme si brillant, si cultivé, si novateur aussi dans son regard sur la littérature, et puis qui a marqué, on pense à ces mythologies qui sont devenues pour nous une forme de, un peu de passage obligé, ce petit livre de Barthes qui prend plein d'objets de la vie quotidienne d'une certaine manière de son temps et qui explique pourquoi c'est devenu pour nous des mythologies, et puis les fragments du discours amoureux. Et là, c'est comme si on voyait Barthes s'occupait du grand sujet de sa vie et ne jamais y arriver. Quelque chose voilà, d'aussi saisissant que cela. Et par ailleurs, c'est amusant, en commençant ses cours sur la préparation du roman, il va se mettre à parler pendant très 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 longtemps des haïkus qui n'ont rien à voir avec le roman. Et pour le coup, moi je dis, ah, bon, les haïkus, je ne connais pas bien, je ne suis pas sûre que ça me passionne tant que ça. Vous lisez ça, après vous êtes en transe sur les haïkus tellement qu'il va, parce que l'haïku c'est une des formes les plus brèves hein, de la poésie, c'est une forme japonaise, et que ces quelques vers, il va passer des pages et des pages et des pages à essayer d'en faire un vague contour, comme une silhouette d'estampe justement japonaise, et c'est passionnant comme un polar, je peux pas vous dire. On plonge dedans, on peut absolument pas lâcher. Et puis surtout, et je pense que les éditeurs ont fait un super travail là-dessus, c'est que ils essayent de reproduire sans trahir l'oralité d'un cours. Parce que ce sont des cours, donc c'était voué à être ses notes pour parler à ses étudiants. Et ils essayent de garder cette forme-là de ce dialogue frontal avec des gens, tout en le convertissant, je sais pas comment on peut dire, à l'écrit. Et c'est vrai que en le lisant, non seulement c'est passionnant, il passe par mille biais, mais c'est comme si on entendait la voix éteinte de ce très grand écrivain qui n'a jamais écrit d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il le percevait, une sorte d'écrivain qui réfléchit à ce qu'est être un écrivain et qui n'arrive jamais à transformer ce désir-là, tout en l'explorant à tous les degrés. C'est lui le degré zéro de l'écriture. Et ce n'est un cours du Collège de France. Ça peut paraître comme ça extrêmement aride. Et j'avais un souvenir lumineux de me plonger là-dedans, de retrouver aussi ce plaisir qu'on avait quand on était étudiant et d'avoir quelqu'un qui nous ouvrait à plein de choses et qu'on regrette un peu quand on a vieilli, tout ce temps qui ne reviendra pas, ce temps de l'apprenant, ce temps de l'écoute. Et c'est très agréable, en fait, comme de reprendre un cours avec quelqu'un un peu d'outre-tombe qui vient nous enseigner, en tout cas nous ouvrir à des choses. Ce qui est amusant, c'est que dans La vie matérielle de Duras, elle explique pourquoi elle trouve que Barthes est assez nul. Et alors, c'est assez marrant parce qu'après, je me suis rendu compte qu'en ayant mis les deux dans la même liste, j'ai dit, en fait, Duras dit vraiment du mal de Barthes. Du coup, je les ai mis à côté sur la table pour qu'ils se réconcilient là. Voilà, je les mets l'un sur l'autre. Comme ça, ils vont peut-être se réconcilier. Et elle dit dans La vie matérielle que Barthes est un homme charmant. Mais que, en gros, ça vaut pas grand-chose son écriture. Mais elle trouve que c'est un homme absolument charmant. Donc elle ne lui en veut pas personnellement. Hein. C'est plutôt elle voit pas bien l'intérêt de son écriture. Ça lui tombe des mains, ce qui est assez amusant. Après, elle n'a pas pu lire la préparation du roman hein, parce que ça n'était pas sorti et accessible avant la mort de Marguerite Duras. Alors La vie matérielle, c'est vraiment peut-être l'objet le plus bizarre des cinq parce que C'est transgenre. Hein. C'est pas un roman, c'est pas un essai, c'est pas de la poésie, c'est pas du théâtre, c'est pas du scénario, parce que Duras a tout écrit. Hein. Elle a écrit sous toutes les formes, elle a écrit pour le théâtre, pour le cinéma, pour tout. C'est quelque part, ça ressemblerait un peu, et j'en suis désolée Marguerite, au fragment de Discours amoureux de Barthes, c'est-à-dire qu'elle fait des fragments. Mais c'est comme si elle avait décidé à un moment donné de se dire je ne sais pas sur quoi je vais écrire, je ne sais pas quel est l'horizon de ces fragments, contrairement à Barthes. On va voir comment ça sort. Et d'ailleurs, à un moment donné, elle parle dans ce livre d'essayer d'écrire comme sur une autoroute, c'est-à-dire en essayant de filer sans s'arrêter. Mais elle se dit elle-même que c'est impossible et qu'elle prendra forcément des chemins de traverse. Et donc, c'est littéralement des fragments dans le sens où il y a des petits titres sur des sujets. C'est quelques pages, parfois une, parfois cinq, parfois dix. Et elle va parler de choses aussi différentes que qu'est-ce que c'est d'avoir une maison ? Qu'est-ce que c'est de tenir une maison ? Donc, par là, qu'est-ce que c'est aussi d'être une femme ? En tout cas, les problématiques étaient un peu différentes qu'aujourd'hui là-dessus. Qu'est-ce que c'est d'être cette hôtesse de maison ? Et elle en va jusqu'à donner la liste des produits toujours essentiels à avoir dans une maison. Alors, il y a de l'Ajax, il y a du sel, du café, etc. Et elle dit presque, faites une petite liste, mettez-la au mur, comme ça, vous aurez toujours les 25 produits nécessaires. Donc, c'est autant ça qu'elle va parler de sa relation avec Yann Andrea. Et qu'est-ce que c'est, ce très jeune homme, beaucoup plus jeune qu'elle, homosexuel, et elle, et cette relation fusionnelle et belle et terrible. Qu'elle va parler de faits divers qui l'ont marqué. Et là, on se souvient un peu de son article terrible dans Libé sur l'affaire du petit Grégory, qui était un sujet tellement étrange qu'on pourrait reprocher à Marguerite Duras de s'être permis cela. Et elle va parler de son rapport à Trouville, à Cabourg, des lieux qu'elle a habités. Elle va rappeler son enfance au Vietnam. C'est vraiment comme si on tirait les rideaux, on rentrait dans sa vie. Elle va parler de beaucoup de ses livres qu'elle a déjà écrits. Elle l'écrit tardivement, donc elle est déjà extrêmement célèbre. Elle est déjà Marguerite Duras. Elle s'appelle MD dans le texte, j'adore. Elle disait MD. Bah, au début, j'étais là, mais MD, mais elle parle de qui ? Ah mais oui, elle parle d'elle-même, évidemment, Marguerite Duras. Elle est devenue MD. Elle a ce qu'elle appelle son uniforme, sa jupe en laine sous le genou, ses petites bottes, son chandail. Et elle explique pourquoi elle a cet uniforme, pourquoi maintenant ça ne bougera plus. Donc voilà, elle parle des villes qu'on comptait, des gens, et puis les coulisses aussi de tous ces textes qui maintenant sont devenus des incontournables pour nous, que ce soit en livre ou en film, L'Amant, Le ravissement de Harold Weinstein, voilà, et tout d'un coup, mais avec cette démarche fragmentaire, c'est-à-dire qu'elle, c'est comme si elle ne prévoyait pas au début de chacun des fragments de quoi elle va parler. C'est comme si, un mot apportait une réflexion, et il y a cette idée, un peu à la Duras, toujours de dire une chose et tout de suite de la casser ou de désaffirmer ce qu'elle venait d'affirmer. Et c'est toujours marrant de lire Duras parce qu'elle a vraiment des affirmations sur tout. C'est qu'est-ce que c'est que d'être un écrivain, qu'est-ce que c'est d'être une femme, qu'est-ce que c'est d'être hétérosexuel, qu'est-ce que c'est d'être homosexuel. Et en même temps, on sent que quand elle affirme ces choses, c'est parce qu'elle les questionne. Et que ce ne sont pas des affirmations autoritaires. C'est un immense respect pour les choses qui nous échappent en permanence. Et que même à un certain âge qui est le sien, quand elle écrit son texte, elle réinterroge toute sa vie depuis le commencement. Elle parle même de quand elle était enfant, de premières expériences sexuelles qui pourraient être aujourd'hui considérées d'ailleurs comme comme des sortes d'agressions, du fait d'acheter du sel et du poivre. C'est-à-dire qu'elle et c'est vraiment saisissant parce que c'est presque une forme se déshabiller au plus profond, en même temps sans rien montrer et en même temps les choses qui nous échappent. Et on peut, je pense que si vous avez envie, c'est qu'on peut tout à fait piocher. C'est-à-dire que tous ces fragments ne sont pas liés les uns avec les autres. C'est un livre qu'on peut juste ouvrir, en saisir deux ou trois, prendre un à la fin, au début. On peut aimer Marguerite Duras, moi je l'aime beaucoup. On peut la détester, c'est pas grave. Vous prendrez quand même du plaisir. Si vous dites, mais pourquoi elle raconte ça ? Voilà, vous pourrez encore plus la détester. Mais vous aurez passé un bon moment quand même avec elle, parce qu'elle a quand même tellement de fulgurance et elle est tellement unique. Elle parle aussi de ce que c'est que d'être écrivain et d'écrire. Et je suis d'accord ou pas d'accord d'ailleurs, peu importe, mais je suis toujours, moi, très bousculée. Et c'est quand même un peu comme un phare. Hein. Même quand, on peut aimer les textes, pas aimer, en aimer moins d'autres, mais elle fait partie de ces gens qui sont quand même un peu des phares qui nous éclairent. Et celui-là est vraiment une des formes les plus étranges. Et d'ailleurs, dans mon souvenir, il y a un petit prologue au début où elle explique pourquoi elle a essayé, pourquoi elle a voulu écrire ce texte et qui n'avait pas vraiment de sens. Et il me semble, le début, ce livre n'a ni commencement ni fin, il n'a pas de milieu. Du moment qu'il n'y a pas de livre sans raison d'être, ce livre n'en est pas un. Vous voyez, Duras, quoi. C'est-à-dire, ok, mais alors qu'est-ce que c'est ? Dis-nous. Voilà. Et il n'est pas un journal, il n'est pas du journalisme, il est dégagé de l'événement quotidien. Disons qu'il est un livre de lecture, loin du roman, mais plus proche de son écriture. Et là, elle continue. Et donc, elle-même est en train d'essayer de saisir ce qu'elle est en train de faire et ça lui échappe et c'est vraiment bouleversant. C'est marrant parce que par exemple, vous avez peut-être lu ce livre qui était très beau, qui si je ne dis pas de bêtises était de Marie Darrieussecq, Il faut beaucoup aimer les hommes, c'est ça, hein, c'est bien Marie Darrieussecq. Hein. Et en fait, le titre vient de ce livre, le titre de Marie Darrieussecq vient du livre La vie matérielle. À un moment donné, elle dit, c'est dans un petit paragraphe, il faut, mais d'ailleurs Marie Darrieussecq la cite, hein, je veux dire, dans son livre, il faut beaucoup, beaucoup aimer les hommes parce que sinon on les aimerait pas, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un espèce de truc, elle lâche ce truc-là de, heureusement qu'on les aime beaucoup parce que sinon, mais on s'en débarrasserait très rapidement. Et donc, il y a vraiment ce truc assez drôle. Et du coup, je trouve ça très beau que Marie Darrieussecq ait repris ce moment-là, ce fragment-là, bien plus tard. En rendant un peu, et puis dans La vie matérielle, il y a cette étrangeté du titre qui frappe. Alors je sais pas trop combien de temps il me reste, mais du coup je vais quand même, ça va ? Ouais, très très bien. Et du coup je vais finir quand même par, pour le coup, quand on me pose la question, ça arrive dans des salons, des rencontres ou dans une interview, dire ah mais un livre plus important que les autres, etc. Donc j'aime pas trop cet exercice, encore une fois, parce que je suis là, mais à quel siècle, dans quel genre ? Parce que je pourrais dire un truc, à chaque siècle, il y a des livres que j'aime en théâtre, en poésie, en roman, et que c'est comme si on renonçait, en fait, de devoir en choisir. Et donc, souvent, je suis mauvaise dans cet exercice-là, je dis un peu ce qui me passe par la tête. Mais en revanche, quasiment tout le temps, Je cite celui-là, qui est un recueil de poèmes de Paul Verlaine. J'aurais pu en citer un autre, d'ailleurs, de ces recueils, parce que je les aime tous. Je pense que c'est un des rares poètes ou écrivains dont j'ai absolument tout lu, tout ce qu'il a écrit. Et il n'y a pas tant que ça non plus, hein, c'est pas, mais j'ai tout lu, j'ai lu toute sa correspondance et j'ai tout lu plusieurs fois. Et ça, c'est la grâce des poèmes, c'est qu'on peut beaucoup, beaucoup les relire. Et donc, je pourrais avoir choisi un autre de ces recueils, mais quand même, celui qui ressort quasiment tout le temps, c'est celui-ci, qui sont les poèmes saturniens. Et alors, pour le citer un tout petit peu, les poèmes saturniens, on est plutôt sur le premier Verlaine, c'est-à-dire que c'est un recueil. Alors là, je suis plus très sûre si c'est lui qui choisit exactement sa composition. Ce sont plutôt les premiers poèmes de Paul Verlaine. Et ce qui est amusant, c'est que dedans, il y a parmi les plus connus qu'on a tous eu à l'école, forcément, vous avez déjà dû entendre parler. Je pense à Chanson d'automne, Le sanglot long des violons de l'automne, Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Et là-dedans, est-elle brune, blonde ou rousse? Je l'ignore. Je ne sais pas si vous voyez celui-là qui est assez connu. Il est dedans. Et donc, effectivement, ce qui est... en fait, pourquoi je dis que c'est intéressant que c'est le premier? Parce que je pense que lui a fait tellement de recherches pour atteindre un endroit de musique en même temps éclatante et en sourdine, et qu'il, c'est comme s'il remettait sur le métier de sa poésie encore et encore et encore, que probablement lui estimerait que ses meilleurs poèmes sont après. Or, effectivement, celui-là est vraiment, nous a tous, celui-là perdure. Ce sont pour la plupart des sonnets, hein, avec cette forme extrêmement musicale, extrêmement rythmique. Et c'est intéressant, peut-être qu'il se serait dit, mince, pourquoi c'est ceux-là qui retiennent, alors que j'ai essayé des expériences beaucoup plus complexe après. Mais bon, celui-ci est indépassable. Verlaine, c'est-à-dire qu'on est toujours dans cette forme de presque d'absence d'espoir. Et donc, je me dis que voilà, avec la Shoah et puis le tour du malheur, et là, c'est la mélancolie. Donc voilà, mais c'est quand même assez gai, Marguerite Duras. Hein, je vous dis, celui-là est quand même assez gai. Mais effectivement, ici, les poèmes saturniens, le saturnisme, c'était une manière de désigner les gens atteints d'une forme de mélancolie. Et les titres viennent de là. Et c'est vrai que c'est un peu quand on. Alors, c'est sublime, c'est éclairant dans la nuit, mais c'est un petit peu comme si on rentrait avec lui dans un cabaret et qu'on allait se bourrer la gueule très très fort avec lui à l'absinthe. C'est-à-dire que ça. Voilà, on n'en ressort pas tout à fait indemne. Mais j'ai la sensation, moi, à chaque fois que j'en relis un ou deux au passage, alors que je les ai vraiment lus 2000 fois chaque, c'est vraiment comme si à chaque fois je redécouvrais. J'allais dire d'une modernité, mais c'est un terme qui n'est pas forcément le plus, c'est d'une contemporanéité folle, parce que j'ai l'impression que voilà, ça peut faire écho absolument à ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Peut-être que je peux en lire un, ce serait, je pense à un en particulier que j'aime énormément, voilà. Qui se trouve dans la rubrique, parce que donc il y a quatre rubriques dans mon souvenir, et c'est dans la rubrique Mélancolia. Et qui s'appelle Après 3 ans. Je ne sais pas si vous connaissez ce poème-là. Donc c'est un sonnet. Et peut-être pourquoi je choisis celui-là aussi, au-delà du fait que j'aime énormément ce poème. Il se trouve que dans mon dernier roman, dont je parlais tout à l'heure en rencontre, ce poème est cité. Ce Après 3 ans est glissé dans le texte. Et je me suis rendu compte avec le temps que dans tous mes romans, il y a toujours Verlaine quelque part, je n'y échappe jamais, et il y a toujours Frida Kahlo aussi dans tous mes textes. Je ne sais pas pourquoi ils sont toujours là tous les deux. Je ne sais pas si ce serait bien entendu, Paul et Frida, ils auraient sans doute vidé quelques verres ensemble, mais si, je pense qu'ils auraient pu discuter un petit peu. Alors, après 3 ans, ayant poussé la porte étroite qui chancelle, je me suis promenée dans le petit jardin qu'éclairait doucement le soleil du matin, pailletant chaque fleur d'une humide étincelle. Rien n'a changé. J'ai tout revu. l'humble tonnelle de vigne folle avec les chaises de rotin. Le jet d'eau fait toujours son murmure argentin et le vieux tremble sa plainte sempiternelle. Les roses, comme avant, palpitent. Comme avant, les grands lys orgueilleux se balancent au vent. Chaque alouette qui va et vient m'est connue. Même j'ai retrouvé debout la Véléda, dont le plâtre s'écaille au bout de l'avenue, grêle parmi l'odeur fade du réséda. Et ce poème, à chaque fois, me propulse en lui, en ce moment. Pourquoi je le cite dans mon roman et pourquoi, et pour moi, il fait un écho qui peut s'appliquer à beaucoup de moments de notre vie, c'est que c'est vraiment cette idée de revivre, revenir, repenser, se souvenir de quelque chose qui nous a été très, très familier. Alors peut-être que ce souvenir est agréable ou peut-être qu'il est désagréable, mais ce moment du vertige proustien, hein, de la Madeleine dans le thé, hein, c'est cette idée de ce vertige absolu. Je suis désolée, j'ai fourmi dans la jambe. Ce moment de vertige absolu de rien n'a changé. J'ai tout revu. Comme un choc, c'est-à-dire comme si on était toujours un peu bloqué dans ce passé, dans ces souvenirs. Le temps passe inexorablement, mais voilà ce qui a constitué notre être, nos souvenirs à nous, lui va rester de manière pérenne et nous allons disparaître à un moment donné, mais il est là, et là, le petit jardin dont il pousse la porte, il est là et il y a toujours des alouettes, et il y a toujours des roses, et même au bout de l'avenue, il y a toujours cette statue, cette Véléda, et dont le plâtre s'écaille. Et il y a vraiment, c'est comme s'il saisissait, mais alors sans aucun, sans être didactique, qu'il saisissait absolument ce vertige du passage du temps, et avec en même temps, comme toujours chez Verlaine, des tout petits détails en dentelle, en demi-lune, en demi-teinte, cette musique vague, cette couleur pâle, c'est fantomatique, spectrale. C'est pas Baudelaire, si vous voulez, c'est pas Rimbaud, c'est pas la comète qui arrive et qui change la poésie pour toujours. Verlaine, c'est comme s'il s'excusait d'être là et en même temps, dans ce tout petit chat d'aiguille dans lequel il passe tout le temps, dans cette délicatesse, il saisit les vertiges. Pour moi, presque plus fort que ces illustres collègues que sont Baudelaire et Rimbaud. Et aussi, ce qui est frappant, et c'est pour ça que je citais aussi Verlaine dans mon roman, c'est que la délicatesse absolue de sa poésie, cette grâce. Et puis tout d'un coup, on peut se souvenir aussi que Paul Verlaine, il foutait des roustes de l'enfer à sa femme. Et d'un coup, on est là, mais c'est la même personne. Et ça nous rappelle à quel point c'est compliqué. Et ça nous dit aussi, bien sûr, qu'on peut tomber dans cette poésie sublime et magnifique en séparant l'homme de l'œuvre. Sujet très actuel, n'est-ce pas? On ne va pas rentrer là-dedans. Peut-être que du coup, je vous termine sur ces ce vers de Verlaine, sur cette musique-là. Et merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir écouté.
Un grand merci à Claire Berès de nous avoir ouvert la porte de sa bibliothèque idéale, très inspirante. Et voilà, n'hésitez pas à vous approcher pour découvrir les livres dont on a parlé. Merci à tous.